France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Ils paraissent bien fades, les scandales artistiques de nos jours. Au regard de ceux d'hier, ils ont souvent l'air de tempêtes dans des verres d'eau à moitié vides et nous feraient regretter la bataille d'Hernani, la réception du déjeuner sur l'herbe ou celle du sacre du printemps. Évoquant la soirée devenue mythique du 29 mai 1913, l'artiste peintre Valentine Hugo, qui y assistait, a pu dire ceci. Tout ce qu'on a écrit sur la bataille du sacre du printemps reste inférieur à la réalité. Ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre. Elle semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des ululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles, voire des coups. En 1997, dans la deuxième d'une série de cinq émissions consacrée à Igor Stravinsky, dans Petite histoire de la musique, Véronique Puchala revenait sur le scandale que provoqua la création du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées.
Petite histoire de la musique. Cette semaine, Igor Stravinsky. Véronique Puchala. La création du Sacre du Printemps, c'était à Paris, le 29 mai 1913. Et ce jour-là, Stravinsky publiait un article dans la revue Montjoie. Le public parisien, écrivait-il, a bien voulu réserver un bon accueil depuis quelques années déjà à Mon Oiseau de Feu et à Petrouchka. Je crains que le Sacre du Printemps, où je ne fais plus appel à l'esprit des contes de fées ni à la douleur et à la joie toute humaine, mais où je m'efforce vers une abstraction un peu plus vaste, ne déroute ceux qui m'ont témoigné jusqu'ici une sympathie chère. Si Stravinsky craignait de dérouter le public parisien, il était pourtant loin d'imaginer que sa nouvelle œuvre allait donner lieu à l'un des scandales les plus extraordinaires de ce siècle. Aujourd'hui, le Sacre du Printemps ou l'histoire d'un scandale. Avec le Sacre du printemps, écrit Stravinsky, j'ai voulu exprimer la sublime montée de la nature qui se renouvelle, la montée totale, panique, de la sève universelle. Dans le prélude, avant le lever du rideau, j'ai confié à mon orchestre cette grande crainte qui pèse sur tout esprit sensible devant les choses en puissance, la chose en soi qui peut grandir, se développer indéfiniment. En somme, j'ai voulu exprimer dans le prélude la crainte panique de la nature pour la beauté qui s'élève, une terreur sacrée devant le soleil de midi, une sorte de cri de Pan. La matière musicale elle-même se gonfle, grandit, se répand. Chaque instrument est comme un bourgeon qui pousse sur l'écorce d'un arbre séculaire. Tout l'orchestre doit avoir la signification du printemps qui naît. Le soir de la première du Sacre du printemps, Pierre Monteux est à la tête de l'orchestre. Stravinsky se trouve dans la grande salle du théâtre des Champs-Élysées, au milieu du public. Les premières mesures du prélude se font à peine entendre que les rires et les moqueries fusent de toutes parts. Stravinsky est révolté, il quitte la salle, il rejoint Diaghilev dans les coulisses. Le vacarme est maintenant à son comble. Nijinsky, le chorégraphe, n'arrive même plus à diriger ses danseurs des coulisses où il se trouve. Le tumulte est trop grand et les danseurs n'arrivent plus à entendre les repères rythmiques qu'ils donnent. Quant à Diaghilev, il ne cesse de donner aux électriciens l'ordre d'éteindre ou d'allumer. Tout cela pour essayer vainement d'ailleurs de stopper ce tapage. Une soirée mémorable s'il en est, qui allait faire couler beaucoup d'encre. À ce propos, les articles de presse qui rendaient compte de cette première du Sacre n'ont pu, à proprement parler, offrir aux lecteurs d'alors une juste perspective de la partition. Tout simplement parce que, comme le faisait remarquer Pierre Lalot, un critique connu de l'époque, le ballet de Stravinsky, personne, à dire vrai, n'avait vraiment pu l'entendre. On l'avait vu, on ne l'avait pas entendu. D'où l'incohérence des arguments évoqués dans la plupart des articles, d'où le manque de fondement de certains jugements. Autant de choses qui pouvaient renvoyer dos à dos les partisans les plus fanatiques du Sacre comme ses détracteurs les plus acharnés. Certains critiques musicaux du début de ce siècle, qui assistaient donc à la création du sacre en cette soirée du 29 mai 1913, n'hésitent pas à assassiner l'œuvre, qu'il s'agisse de la musique de Stravinsky, de la chorégraphie de Nijinsky ou encore des décors et des costumes de Nicolas Roerich. Tout dans ce spectacle nouveau est prétexte à la critique, dans ce qu'elle a de plus venimeux, de plus caustique, un verbe devenu fiel ou perse, comme chez Adolphe Bochot, par exemple, dans la revue L'Écho de Paris, une acrimonie qui flirte avec la méchanceté et, cela va de pair, avec la bêtise. Que dit-il de la chorégraphie, par exemple? Eh bien, que les danseurs, affublés des couleurs les plus hurlantes, portant bonnet pointu et peignoir de bain, peau de bête ou tunique pourpre, gesticulent comme des possédés. Ils sont là à répéter 100 fois le même geste, à piétiner. Puis, ils se cassent en deux, saluent et recommencent à piétiner. Une réflexion qui clôt le paragraphe sur ces mots, l'analyse de cette chorégraphie et de cette mimique pourrait se poursuivre. On trouverait toujours de quoi rire. Quant à la musique, Bochot le dit haut et fort. La musique de Stravinsky est déconcertante et désagréable. La nouveauté choque donc, la nouveauté a quelque chose d'indécent. Mais il y a aussi ceux qui savent reconnaître en cette nouveauté brute, quasi éruptive, une force créatrice, capable peut-être par la suite d'irradier le paysage musical et artistique d'une époque. Florent Schmitt fera partie en cette année 1913 de cela. Nouveauté des audaces harmoniques, nouveauté des couleurs, des timbres et de leur agencement par masse, par bloc sonore. Le sacre est l'œuvre d'un visionnaire et, selon lui, Stravinsky n'est autre que le messie tant attendu depuis Wagner et dont Moussorgski, Debussy, Richard Strauss et Arnold Schoenberg semblent avoir préparé les voies. Quelles qu'ont été les critiques de l'époque, elles ont passé sans enfreindre cette vérité que le Sacre du printemps de Stravinsky est un chef-d'œuvre qui demeure inéluctablement. En évoquant la partition du Sacre, Pierre Boulez, à ce propos, écrivait que les admirateurs de Stravinsky, tout comme ses détracteurs, ont tiré chacun à soi cette œuvre clé et ont voulu y voir soit l'origine de toutes ces glorieuses épopées de rajeunissement, soit très intrinsèquement le point de départ de toutes ces turpitudes. On serait enclin à penser, poursuit-il, que cette œuvre vaut mieux que tous les éloges dont on l'a accablé. Si le sacre défie le verbe, élogieux ou non, il défie aussi le temps. Pendant les 2 ou 3 décennies qui suivirent sa création, On se contenta, écrit Boulez, d'imiter l'écriture, l'irrégularité et le nombre des changements de mesure sans se préoccuper d'une réalité quelconque de leur emploi. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir que le sacre n'a pas eu de portée véritable et qu'en tant qu'œuvre la plus connue du domaine contemporain, c'est aussi une œuvre sans descendance. Histoire de la musique par Véronique Pouchala. Équipe de réalisation, Geneviève Nguyen, Géraldine Prutner. Demain, Igor Stravinsky, 1914-1920, année de guerre, année d'exil.
C'était « Petite histoire de la musique », Igor Stravinsky, « Le sacre du printemps » ou « L'histoire d'un scandale » par Véronique Pouchala. Première diffusion le 17 juin 1997 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.